Bonsoir. Dans le cadre de 100 jours de son accession au pouvoir, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, avait lancé plusieurs chantiers touchant différents domaines d'activité, notamment les infrastructures, l'éducation, la santé et l'emploi. Plus de 5 mois après, quel bilan dressé de ces chantiers? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce lundi 12 août 2019. Et pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat John Tumba. Il est député national UNC, élu de Kananga et membre du comité de suivi du programme d'urgence du président Félix Tshisekedi. Monsieur Tumba, bonsoir.
Bonsoir.
Yves Kitumba, cadre du MLC et porte-parole de la coordination provinciale de la plateforme Lamuka à Kinshasa. Monsieur Kitumba, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et le professeur Félicien Kabamba, professeur à la faculté de sciences sociales, département de sciences politiques et administratives de l'université de Kinshasa. Il est aussi chercheur au centre d'études politiques de cette université. Professeur Félicien Kabamba, bonsoir.
Bonsoir, Kelly.
Merci parce que vous êtes très nombreux, vous, auditeurs des radios Okapi, à nous envoyer des réactions. C'est le cas de Albert Sangwa depuis Kolozi, dans la province du Lualaba. Difficile de juger le moteur d'une voiture à 1 mètre, mais par la manière dont le président de la République a entamé son mandat, nous pouvons facilement dire que le programme des 100 jours est une réussite dans son pivot politique avec la libération des prisonniers politiques, mais très négatif sur le plan social où les Congolais souffrent d'une crise financière jamais connue et les Chinois qui continuent à coloniser le peuple congolais sur leur propre terre et sous les yeux du chef de l'État, comme pensée sauveur de cette misère de 200 dollars, 300 dollars le mois pour un parent de 5 à 6 enfants qui doit nourrir et payer les études. Lancer des mondes où serait passé le slogan « Le peuple d'abord ». Merci de nous ouvrir par ton RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Les actions d'urgence des 100 premiers jours vont porter en priorité sur les secteurs sécuritaires, politiques, sociaux, économiques, infrastructurels et de la jeunesse, déclaré le président Félix Tshisekedi lors du lancement début mars de son programme d'urgence des 100 premiers jours à la tête de la RDC. Qu'en est-il à ce jour? Au Kasaï central, par exemple, le coordonnateur national du réseau Jeunes dans le monde pour la paix exhorte le chef de l'État à s'investir dans la matérialisation totale de son programme d'urgence de 100 jours, selon Edel Martin Kabutakapoa. Jusqu'ici, la mise en chantier de ce programme n'est qu'au début, alors que la province connaît beaucoup d'urgences. On l'écoute au micro d'André Kiambala.
Il n'y a rien qui s'est fait. Nous avons abordé cette question à différents niveaux. Même le gouverneur de la province n'est pas, on dirait, intégré dans cette histoire. Nous apprenons à gauche, à droite, qu'il y a des personnes qui avaient été chargées de ça et l'argent qui est venu, à part le courant qu'on est en train de voir. Donc rien n'est arrivé au niveau du gouverneur. Le chef de l'État lui-même, quand vous parcourez son programme, le Kasaï central est là. Mais ça va aller jusqu'à quand? Et ailleurs, il y a les chantiers, même dans la province voisine Kasaï. Mais ici, même les routes d'ici d'Imbeleng, vous ne pouvez pas arriver. Tous les ponts sont dans l'eau. Les gens traversent sur des choses montées par des villageois. Il n'y a rien. L'eau ici, la régie des eaux, en pleine ville. Les gens vont aller au niveau des bornes fontaines, en pleine ville. C'est comme si on était dans un village. Problème Chitkatende. On ne voit rien. Nous ne voulons plus qu'on vous dise études de faisabilité, qu'on revienne. Il faut qu'on commence là où ça s'est arrêté. Parce que si on revient à cette histoire, on va envoyer l'équipe qui va venir. Donc, on va voir une année passée, 2 ans. Peut-être on arrive déjà aux élections. On va dire, on va attendre les nouvelles autorités. Parce que ça a commencé depuis Mobutu. Depuis Mobutu, on n'a jamais vu les ampoules s'allumer dans cette province.
John Tumba, je rappelle que vous êtes député national UNC, élu de Kananga et membre du comité de suivi du programme d'urgence du président Félix Tshisekedi. Plus de 5 mois après le lancement de ce programme d'urgence, où en est-on? Quel bilan dressé?
Merci bien, madame.
De façon générale, hein, d'abord, avant oui, d'entrer dans les détails.
Effectivement, d'une façon générale, c'est comme nous avons eu à le faire il y a 3-4 jours. On a fait l'évaluation et c'est que le bilan est positif. le bilan est positif parce que les gens ont vu ce qui s'est fait. Et il y a le tronçon de route qui sont déjà terminés et il y a les ponts qui sont déjà lancés sur d'autres rivières et il y a des bacs qui sont arrivés à destination. Il y a les écoles qui sont réhabilitées, il y a les centres de santé qui sont réhabilités et d'autres sont construits. Et il y a les maisons préfabriquées qui sont arrivées à destination et d'autres doivent déjà accoster d'ici la semaine prochaine. Il y a les produits pharmaceutiques qui sont arrivés pour être acheminés dans des centres de santé et il y a les équipements médicaux.
Alors, on peut évaluer cela à combien de pourcents à peu près?
Et aujourd'hui, nous sommes donc, peut-être par secteur. Par secteur, oui, parce que nous ne pouvons pas donner dans l'ensemble. Dans le secteur routier...
Alors, on va parler des infrastructures.
Oui, et les infrastructures routières. Mm-hmm. Alors là, nous sommes déjà à 70%, je peux mettre, parce que, comme vous savez, là-dedans, on y trouve les sautes-moutons qui sont encore en construction. Et on a déjà fait de construction... de génie civil, il y a les structures qui sont importées, qui doivent venir de la France et une partie de l'Afrique du Sud.
Alors, lorsque vous parlez des 90%...
Non, je parle des 70%.
70% pour les infrastructures routières, oui. Est-ce que ça concerne toute la République ou Kinshasa seulement?
Non, pas Kinshasa seulement. Je parle de toute la République parce que on a reparti... la voirie, c'est seulement Kinshasa. Mais les routes maintenant, là c'est l'ensemble du pays parce que nous avons classé ça suivant les zones.
Vous avez suivi cet auditeur de Kananga tout à l'heure qui s'est plaint que rien ne s'est fait dans cette province à part les ampoules qui s'allument quand même.
Merci madame, je l'ai suivi et je dois vous dire que je suis moi-même élu de cette ville. Et je sais, je ne pouvais pas laisser sans que la ville là puisse bénéficier des actions de 100 jours. Je peux vous dire que s'il faut citer, la ville de Kananga a bénéficié de la construction de 3 écoles. Et s'il faut les citer, il y a l'Institut Mouloudi qui finit totalement. Il y a
Epela Mabantu. Elle a été construite ou réhabilitée?
Construite. Mm-hmm. Il y a Epela Mabantu. Donc on a laissé les anciennes infrastructures et on a carrément construit d'autres. Et il y a Epela Mabantu, il y a Epela Batangela Kumpala pour ne parler que de ces 3 écoles qui étaient prévues et terminées totalement. Et je veux parler que Kananga devait bénéficier de bacs à moteur, 2 bacs qui sont déjà sur place à Kananga. Et il ne reste que leur installation. Alors, il faut citer aussi pour les routes que Kananga devait bénéficier du tronçon, la réhabilitation du tronçon Tchikapa-Kananga. Et c'est déjà en marche. C'est parti de Tchikapa. Ils sont déjà au niveau de Kamwechi en progression vers Kananga. Il y a Lac Mukamba-Kananga. Et les travaux sont là avec les équipes qui travaillent. Et il y a l'office de route qui est là-dessus. Et il y a la route de Kalambambouge où on devait travailler sur des bourbiers et des points chauds et les travaux sont en cours. Il y a des endroits où on a déjà fini. Eh bien, c'est un problème peut-être d'information et c'est ça.
Mais c'est des gens qui vivent sur place là-bas et devraient voir toutes ces réalisations.
Madame, moi-même je suis élu et j'étais là-bas, j'ai indiqué les endroits. Et ils peuvent aller à Kamaï, ils vont trouver les bornes fontaines pour dire que le forage d'eau sont déjà réalisés tel que prévu par ce programme.
Alors, à part Kananga, quelle autre province a bénéficié des routes?
À part Kananga, il y a, s'il faut dire, nous avons
on
la
va pas
province.
Citer, allez, on ne va pas citer toutes les provinces.
Oui,
mais,
oui. Nous avons la province de Congo central avec la route Boma-Mwanda. Nous avons les ponts sur la route qui va vers Nkamba, ça a été réhabilité. Nous avons on n'a pas tout en tête, mais nous avons aussi le pont Luozi le pont de Lozi qui a été, le bac, excusez-moi, sur la rivière Lozi qui a été réhabilité dans le secteur de route.
Alors, le chef de l'État avait promis de revenir à la place de l'échangeur 100 jours après pour réévaluer les travaux. Ça fait plus de 5 mois, on ne l'a pas vu. Qu'est-ce qui explique cela?
Non, il n'a pas dit qu'il devait revenir.
Le jour où il avait lancé son programme,
oui.
Il avait promis de revenir faire une évaluation 100 jours après.
Non,
devant le peuple.
Il n'a pas dit que je reviens sur la place de l'échangeur. Il a dit que l'évaluation va se faire. Et je vous dis qu'au niveau du comité, il y a 3-4 jours, nous avons fini notre évaluation à l'interne. C'est avant de remettre ça au chef pour rendre ça public.
Ça fait plus de 100 jours quand même.
Et non, madame. Le problème, c'est que ce n'est pas que 100 jours on doit évaluer. C'était que dans le 100 jours qu'il y ait début des travaux.
Merci, monsieur Donald Tumba, Yves Kitumba, cadre du MLC et porte-parole de la coordination provinciale de la plateforme Lamouka Kinshasa. Quel bilan vous vous dressez de ce programme des 100 jours du président Félix Tshisekedi?
Contrairement à ce que mon grand frère John Tumba venait de dire, sur 70%, je me pose la question sur, c'est basé sur quel indicateur? Vous savez, notre pays, c'est 2 450 000 km². On a un réseau routier de 162 000 km. Le target de 100 jours était de combien? On a réalisé combien en termes de routes d'intérêt général, de routes de dessertes agricoles, de routes auxiliaires, le chemin de fer et la voirie urbaine? Je pense que le bilan est négatif. On devait évaluer 100 jours après la proclamation, après la présentation du programme. Nous devions évaluer après le 100 jours. Mais là, nous sommes à plus de 7 mois. On entrera en principe dans le programme électoral ou le programme de gouvernance du président. Mais malheureusement, ce programme n'existe pas parce que jusqu'à présent, il n'y a jamais eu fusion de programme entre l'UNC et l'UDPS. Je veux rappeler à l'opinion. Le programme de 100 jours de M. Tshisekedi avait 7 axes. Il y avait les infrastructures, il y avait la santé, il y avait l'emploi, il y avait l'énergie, eau et l'électricité, il y avait l'habitat, l'agriculture et l'éducation. Je note 2 points à retenir, c'est-à-dire le financement d'abord de travaux, parce que je ne voulais pas dire que c'était un programme improvisé, parce que je me disais... Où trouver le moyen pour exécuter dans 100 jours avec un programme de 488 millions de dollars. Et dans ce 488 millions de dollars, on nous a dit qu'il y avait 206 millions de dollars qui devaient sortir du trésor pendant qu'il n'y avait pas une politique claire de mobilisation de recettes. Et on a chargé les établissements comme le FPI et le FONER de mobiliser en raison de 70 millions et 27 millions de dollars. En principe, avant d'entrer dans le détail, on doit nous dire, sous la mobilisation des recettes, sous le 488 millions de dollars, on a réalisé combien en termes de recettes, de mobilisation des recettes et les dépenses pour exécuter tous ces travaux ont coûté combien et on est à quel chiffre de pourcentage. Ça, c'est un fait. Le deuxième fait, c'est le fait... de ne pas nous dire de manière claire le target, quel était le nombre de kilomètres de route en termes de dessertes agricoles qui ont été réalisées, quel était le chiffre réel en termes de routes d'intérêt général qui ont été réalisées, quel était le chiffre sur la voirie urbaine qui ont été réalisées. Et voilà, là, nous pouvons faire une évaluation. Mais si nous quittons sur le 100 jours, nous entrons directement dans le programme de gouvernance qui n'existe pas. Donc, le bilan est catastrophique parce que la santé, je dirais zéro. L'emploi, parce que le chef de l'État a promis des emplois aux Congolais.
On a suivi M. John Tumba.
L'emploi passe par les investissements. Laissez-moi le temps de terminer. L'emploi passe par les investissements. Pour la création de l'emploi, il faut qu'il y ait investissement. Vous êtes journaliste, vous êtes outillé dans la recherche. Quels sont les investissements qui ont produit de l'emploi? Je me rappelle, dans son programme électoral, il a promis 200 000 emplois. Je ne sais pas évaluer parce que nous sommes même pas mi-mandat. Mais nous restons dans le 100 jours quand même. Dans les 100 jours, il y avait un chiffre dégagé en termes de création d'emplois qui n'est pas arrivé. Donc ça, c'est de la démagogie. Sur le plan de l'agriculture, nous n'avons rien vu. Sur le plan de l'habitat, quel est le chiffre réel de l'habitat dans le 100 jours qui a été prévu et combien ont été réalisés? Sous le plan de l'éducation, mon grand frère a cité quelques écoles à Kananga, mais il y a Bungandanga, à Idiofa, à Kisangani, à Basoko, même d'autres provinces, à Sankuru, au Katanga, à Kolwezi. Parce que le Congo n'est pas Kinshasa. Il faut nous dire, voilà, sous le programme de 100 jours dans l'ensemble de la République, il a été prévu de réhabiliter 12 écoles, d'en construire 20, et nous avons fait 19, ou nous avons fait 9. Là, nous pouvons donner un chiffre de valeur. Aujourd'hui, aux yeux de l'opinion, il est clair que le bilan est largement négatif. Déjà en partant de la mobilisation des recettes. Donc, l'argent pour exécuter ces travaux, je ne sais pas où est-ce qu'on l'a trouvé.
Merci Yves Kitumba, M. John Tumava. Vous répondre, professeur Félicien Kabamba, professeur à la faculté des sciences sociales, département de sciences politiques et administratives de l'Université de Kinshasa. Vous êtes aussi chercheur au centre d'études politiques de cette même université et professeur. Comment vous jugez ces programmes d'urgence du président Tshisekedi Félix?
Je vous remercie. En pratique, la pratique du programme de 100 jours n'est pas l'innovation de Félix Tshisekedi. Il existe à travers le monde. Alors, c'est une pratique qui consiste à montrer que le président de la République, vous avez un nouveau président énergique, un président qui peut redresser le pays et qu'il est capable d'agir vite. En fait, il donne des signaux positifs. Et ces signaux positifs, c'est au travers des actions énergiques qu'il peut réaliser dans les 100 jours. Alors, il sort le programme de 100 jours, et quand vous regardez, il y a plusieurs axes. Il y a des axes qui concernent les infrastructures, vous avez aussi des axes qu'il appelle sectoriels. Et ces axes sont très importants parce que ils permettent d'avoir un effet d'impulsion sur les autres axes. C'est notamment la justice, la sécurité, la politique, la lutte contre la corruption, la bonne gouvernance, la diplomatie, les mines. Et quand vous regardez le tout dernier tableau, est un tableau très très important parce que il y a là des actes transsectoriels. Alors, il faut savoir bien faire le bilan, faire une bonne évaluation de l'action du chef de l'État. Et pour faire cette évaluation, il faut partir de l'existant. En fait, c'est une sorte de baseline, la situation de référence. Et cette situation de référence, c'est pratiquement un héritage catastrophique. Vous avez un taux de pauvreté. La Banque mondiale située ses taux à plus de 70% de la population. Vous avez un pays qui est occupé parmi les dernières places d'indice de développement humain. Vous avez les taux d'accès à l'électricité qui ne dépassaient pas 19%. Vous avez, alors que le pays comme le Congo d'en face est à 66%, Cameroun 61%. Vous avez les taux d'accès à l'eau qui à peine est de 52%. Moi-même, je tiens à vous dire que ça fait 3 ans que l'eau ne coule pas à mon robinet, donc ça c'est aussi l'héritage. J'habite pourtant une bonne cité ici en ville, Riguinée. Et donc, vous avez un réseau routier, il vient de le dire, qui ne dépasse pas 162 000 km. Et donc, 162 000 km, vous avez là un héritage catastrophique. Alors, pour évaluer véritablement l'action d'un gouvernement, il faut partir de ça. Dire, ok, vous avez trouvé un taux d'accès à l'électricité à 19%, vous l'aviez ramené à combien? Est-ce que vous l'aviez ramené à 50? Et donc là, il y a une série d'actions qu'il doit poser pour pouvoir ramener ce taux dans le sens de l'amélioration ou de la régression. Et donc, c'est avec de tels indicateurs qu'on peut arriver à évaluer positivement ou négativement l'action du gouvernement. Mais dire qu'il a fait une route qu'il n'a pas très bien, et en plus, en dehors de tous ces chiffres qu'on nous donne, parce que on a tendance à trop intervenir, trop insister sur des indicateurs quantitatifs, mais il y a aussi des indicateurs qualitatifs, des indicateurs de satisfaction. Et donc, ces indicateurs, tous les deux, quantitatifs et qualitatifs, nous peuvent nous permettre de bien évaluer l'action ou le programme du chef de l'État. Et de mon point de vue, quand vous prenez les axes sectoriels, au niveau de la justice, par exemple, il dit qu'il va accorder la grâce présidentielle aux prisonniers politiques. C'était un point extrêmement important et je crois que cela a été fait. Par contre, sur l'axe sécuritaire, il est très attendu. Évidemment, l'héritage était catastrophique, mais ce n'est pas parce que ça a été catastrophique qu'il ne faut pas entreprendre des actions. Il faut véritablement essayer de montrer qu'on est un président énergique et qu'on est en mesure d'apporter des solutions durables. Vous avez aussi la décrispation politique, notamment avec l'autorisation des exilés politiques, et donc il y a eu quelques avancées, beaucoup d'avancées là-dessus. Par contre, vous avez un chantier qui a été annoncé, la lutte contre la corruption, et quand vous regardez dans le programme, il y a une mesure, c'est la redynamisation de l'appareil judiciaire et autres structures ad hoc, et là vous avez une mesure phare, il dit la création d'une structure de lutte contre la corruption et les blanchiments, là, il est véritablement attendu parce qu'on ne semble pas voir beaucoup de résultats sur cet axe. Et donc, vous avez là un certain nombre de choses sur lesquelles il est véritablement attendu et ben, ce n'est pas dans 4-5 mois qu'il pourra...
Sur les chantiers routes, par exemple, il n'est pas attendu, routes, emploi, éducation...
Alors, sur tous ces chantiers, il est très très attendu. Alors, sur le chantier route, vous voyez, un pays comme celui-ci, il n'a que pas plus de 162 000 kilomètres. Il est très attendu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même faites ici à Kinshasa par rapport aux provinces. Mais là aussi, il faut dire que le programme, s'il y a un autre programme qui doit être conçu, il doit être un programme qui valorise les infrastructures dans toutes les provinces et non pas seulement à Kinshasa. Il y a là beaucoup de choses qu'il doit encore faire. Mais au final, on peut dire que le programme des 100 jours, c'est un programme qui nous lance beaucoup de défis et qui lance également beaucoup de défis aux intéressés. Il est très critiqué sur certains points, notamment sur la passation de marché. Est-ce qu'il y a eu une certaine opacité? Est-ce que les choses se sont faites correctement? Bon, il y a aussi des critiques allant dans le sens de sources de financement. Est-ce que... Il y a là beaucoup de choses que l'on peut reprocher à ce programme. Mais... quand on fait un programme de 100 jours, il faut être souple, disent-ils. Ailleurs, on l'a fait. Et il est très difficile, quand vous le faites, de pouvoir respecter, parce qu'il faut dire que si vous lancez les appels d'offres, rien que le recrutement de structures pour exécuter le travail va vous prendre déjà 4 mois. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle il ne faut pas que...
Merci, professeur.
Voilà.
Merci, professeur John Otumba. Avant de répondre aux interrogations de Yves Kitumba, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Bukavu, Sud Kivu.
Abamungu Balibouza de Bukavu. Avant d'éviter ce vaste programme du chef de l'État, il faudrait d'abord se demander quelle en était la motivation principale. Si c'est réellement dans l'objectif de soulager les équipes des Congolais, à ce sujet, je puis aisément dire que le programme des 5 jours suit la même direction que les 5 chantiers du régime passé. Dans le domaine de la santé, je ne vois rien que les Congolais a profité dans ce programme et qui lui manquait avant l'arrivée du président Félix à la tête du pays. S'agissant de l'emploi, seul l'initiateur du programme détient le secret du nombre d'emplois créés, car sur terrain, rien n'a l'air d'avoir bougé. Enfin, dans le domaine de l'éducation, les grands rendez-vous avec les parents étant au mois de septembre, je me réserve de tout commentaire, tout en pensant que présentement, il n'y a pas eu d'avancée dans ce secteur. Par ailleurs, si c'est pour des raisons propagandistes que le programme du 100 jours avait été mis sur pied, il fut une mission accomplie car le peuple attendait et continue d'attendre trop de la part du chef de l'État.
Monsieur Otumba.
Merci beaucoup, madame. Je pense qu'il y a un problème.
C'est un auditeur qui nous a appelé de Bukavu.
L'auditeur, il doit se renseigner, il doit vérifier. parce qu'il parle, il dit que dans le domaine de la santé, il n'y a rien eu, mais je vous informe que dans le sud Kivu, il y a 3 centres de santé qui ont été réhabilités et il y a 13 écoles, madame, qui sont, il y a 13 écoles, dont 3 construites et 10 réhabilitées.
Ben, donc l'info ne circule pas?
Le problème, c'est que les gens
ne soient pas au courant de toutes ces réalisations.
Le problème, c'est que, vous savez, madame, le programme du chef est là, mais il ne le fait pas avec son gouvernement. Il le fait entre les deux feux, comme je peux dire, avec l'équipe qu'il a trouvée. Et ça dépend de comment on va accueillir ces programmes. Mais au fait, nous pensons aussi que le problème n'est pas toujours de crier sous les doigts, comme ça faisait autrefois. Nous pensons que nous devons donner ce que nous devons donner à la population. C'est comme ce que je vous dis, avec 13 écoles, 10 écoles réhabilitées, 3 écoles construites, la population trouve sa part. Ce n'est pas le fait de commencer à crier matin, midi, soir et qu'on va dire qu'on fait quelque chose. Il y a 3 centres de santé qui sont réhabilités. Je reviens à ce que mon collègue venait de dire tout à l'heure. Effectivement, les recettes, bon, c'est que le budget était de 422 millions, 422 millions 100 000 614, comme tu as dit. Et je peux vous dire que nous avons eu à affecter 235 millions 99 581, soit 56%. C'est ce que je peux dire à ce niveau-là. Et au niveau d'habitat, vous dites que rien n'est fait, mais non. Si je me suis arrêté là où je me suis arrêté, c'est parce que je parlais juste des infrastructures routières. Mais au niveau d'habitat, il a été prévu 1500 maisons préfabriquées. Et je peux vous dire qu'à ce jour, 300 maisons prévues pour Kinshasa sont déjà ici à Kinshasa, déjà dédouanées. Je crois que vous avez suivi, sauf mauvaise foi. Il y a 300 maisons pour Mbujimayi qui accoste la semaine prochaine à Dar es Salaam.
Et pour Yengende?
Non, nous parlons. C'est comme le professeur a dit, on ne peut pas, dans le programme de 100 jours, on prend tout partout, on fait les actions, là on peut d'abord faire, et on va étendre ça avec le programme du gouvernement. Et pour Kananga, ça vient par Luanda, en Angola. Et pour Bukavu, 300 maisons passent par Dar es Salaam et prend la route du Rwanda et puis entre. Je voulais dire aussi quelque chose sur l'éducation, madame. Le frère a dit que non, on doit dire combien d'écoles. Il y a eu 139 écoles qui étaient prévues et à ces jours, nous avons 88 écoles déjà terminées. Et nous sommes là, et derrière le financement, parce que nous devons terminer le reste à la rentrée scolaire. Et ce qui fait que nous aurons les 139 écoles éparpillées. Chaque province, madame, chaque province de notre pays a au moins une école. Chaque province. Je ne veux pas prendre du temps à commencer à énumérer, mais du moins retenez que chaque province a au moins une école et chaque province a au moins un centre de santé.
Alors, ce programme du chef de l'État va s'arrêter quand? Est-ce que ça sera le même programme avec celui du gouvernement à venir?
Non, mais ça va se greffer dans ça. Parce que le programme de 100 jours, nous avons pris quelques actions qui étaient dans le programme. Et comme le collègue dit qu'il n'y a pas encore eu un programme, non, et il faut que je lui dise, je l'aime bien mon frère, et que UNC, UDPS, ils ont déjà fusionné leur programme, et je peux vous dire que nous avons travaillé avec nos amis des FCC, nous avons déjà un programme. Dès que le go est donné, ce programme va être, le Premier ministre va s'approprier, bien sûr, moyennant les amendements, et ça va être un programme du gouvernement. Donc, on ne fait pas les choses comme des amateurs, on est bien préparé, et les choses sont préparées et de cette façon-là.
Alors, la passation de marché s'est fait comment? C'est une question soulevée par le professeur Félicien.
Oui, oui, le professeur a soulevé.
Il y a beaucoup d'opacité.
Non, le professeur a soulevé, mais il a aussi indiqué que avec les 100 jours, s'il faut commencer à se jeter dans le programme de passation de marché, on est parti pour une année. Parce que vous savez comment ça s'est fait. Madame, nous avons utilisé juste les structures étatiques pour éviter tout ça. Par exemple, quand nous parlons des routes, il n'y a que l'office de route et l'OVD. Donc, on passe par là et nous avons dit, nous prenons les projets qui étaient en cours. Déjà, c'est-à-dire qu'on a déjà soumissionné, on a déjà fini et nous prenons ces projets-là. C'est ainsi que vous allez voir l'office de route. Vous n'allez pas me dire qu'il faut faire encore la passation de marché. C'est déjà fait et l'office de route regarde pour tel tronçon, c'est quelle société qui avait déjà signé les contrats, et on y va de cette façon-là.
Merci, Monsieur John Tumbaïve Kitumba. On va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient du Congo central.
Je suis Simon Tselulouma, mon vice-président du conseil d'administration de la nouvelle société civile en province du Congo central. Nous pouvons dire que c'est le plan infrastructure pour le Congo central. Le bilan est satisfaisant à 91%. Lorsque nous considérons les infrastructures telles que l'asphaltage des routes Mwanda Boma, Banzangundu Kamba, Kisantu Ngibinga, Kimpese Kumbi, Alvozidon et Lufu Songololo. Et de l'autre part, sur le plan énergie, nous sommes en train de vivre des innovations telles que l'électrification de Nkamba et Luozi, les travaux de transport de poteaux et de plantation de poteaux de ligne, c'est fait déjà. Et la construction du port en eau profonde avec le versement de plus de 8 millions de dollars aux ayants droit foncier pour qu'ils quittent les terres du terrain où le port en eau profonde sera érigé. La construction d'une morgue de pluie dans la ville de Matadi qui est en démarche.
Alors, on ne peut pas dire que le bilan est négatif, Yves Kitumba.
Le bilan est négatif, d'autant plus que le bilan en termes d'exécution ne dépasse pas 50%. Je me justifiais. Lorsque l'auditeur parle de port en eau profonde avec 8 millions de dollars, le projet est de 3 milliards. Quand vous diluez 8 millions dans 3 milliards, vous êtes à 0,000%. Vous comprenez? Et lorsqu'il parle de route, Kinshasa, Matadi, Boma, cela entre dans le cadre de travail, mais pour l'évaluer. Nous n'allons pas évaluer Congo central, nous allons évaluer tout le programme. Et donc, je vous ai donné les chiffres sur...
C'est déjà un début.
Non, le début, je n'en disconviens pas. Nous sommes en train de faire une évaluation rationnelle, objective. Alors, pour revenir à ce que l'honorable John venait de dire sur le 236 millions affectés, soit 56%, j'ai quand même des questions à poser là-dessus. D'autant plus, le dernier rapport d'exécution budgétaire, juin 2019, démontre un déficit de 159 millions. Deuxième élément, vous savez comment la balance des paiements se comporte. La réserve d'échange aujourd'hui est à 906 millions, soit 4 semaines. On venait de 9 à 4 semaines. La mobilisation de recettes de 235 millions de dollars. Et nous parlerons en termes de frais sortis du trésor public ou le 100, à peu près 100 millions de deux établissements publics. Alors ça pose un problème, un questionnement sur un tableau clair de mobilisation des recettes. D'autant plus, vous savez que le pays est dans le cuivre et le cobalt. Vous savez aujourd'hui le prix du cuivre, le prix du cobalt. Quelle est la vraie politique? Il faut dire la vérité à l'opinion. Le rapport est là. Lorsque vous allez au ministère du budget, vous allez trouver aujourd'hui, à part les dépassements de la présidence, tous les services de l'État, c'est-à-dire les ministères, sont en déficit budgétaire. Et comment expliquer que cette affectation, en termes de mobilisation des recettes, a atteint ce chiffre? Ça, c'est un questionnement que nous allons nous poser de manière technique. Deuxième élément, lorsque on parle de la fusion de programmes et tout, j'ai noté aujourd'hui si on peut nous donner quel est le chiffre exact qui a été dégagé dans le programme, parce que le programme électoral prévoyait 86 milliards dans les 5 ans, à raison de 15 milliards la première année. Il est à quelques jours de la session budgétaire. On ne veut pas beaucoup faire des affabulations là-dessus. Nous attendons le budget le 15 septembre, la session budgétaire, lorsqu'on va présenter le gouvernement et le programme et le budget prévu comme dans le programme électoral. Troisième élément que je vais souligner en termes de chiffres, lorsque on fait la fusion de programme avec le FCC et l'UDPS et l'UNC, quel est le chiffre exact prévu pour la première année jusqu'à la dernière année? Parce que j'ai noté quand même quelques incohérences dans le programme de M. Tshisekedi, dont il a parlé d'un PIB de 37% la première année, dont la Chine n'a jamais exécuté, la France n'a jamais fait ce genre de chiffres. Il a prévu en dernière année avec un accroissement de 9,31% de PIB. Donc la dernière année, nous serons à 113,65% d'accroissement de PIB. C'est un chiffre. Je suis technicien, parce que de ma formation de financier, je suis technicien. Je ne vois pas et je ne sais pas comment lire ce tableau en termes d'exécution, d'autant plus il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de commerce extérieur. Qu'est-ce que nous exportons? Parce que nous sommes une économie extravertie où nous subissons les importations, nous vivons des importations. Les dépenses gouvernementales, lorsqu'on parle de réalisation de recettes, vous réalisez combien et vous dépensez combien? Ce sont des questionnements. Je pense que le débat doit être d'autant plus technique que politique pour l'instant, parce que il faut travailler pour l'intérêt du peuple. Aujourd'hui, les signaux sont faibles. On doit se le dire.
Mais attendons peut-être la publication du gouvernement.
C'est pourquoi je disais, évaluer 100 jours pour l'instant, c'est un échec d'abord. Il faut évaluer plutôt le programme du gouvernement qui n'est pas encore venu et nous ne pouvons pas nous permettre de l'évaluer maintenant parce que nous sommes à 6 mois du mandat. Le mandat, c'est 5 ans. Donc, il faut évaluer à mi-parcours, peut-être 1 année et demie, 2 ans et 3 ans et nous évoluons comme ça. Mais les départs, parce qu'il ne faut pas faire la démagogie, il faut dire la vérité au peuple, il faut dire que nous travaillons pour le peuple pour que le slogan « le peuple d'abord » ne soit pas une vaste escroquerie.
Merci. Yves Kitumba, professeur, on a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Kinshasa.
C'est Grassimongo Manzongo, le UT depuis Kinshasa. Moi, je pense que l'on devrait en réalité parler des avancées de chaque chantier à l'autre. Concernant l'infrastructure, il faut dire que certaines pistes ont été réhabilitées. Il y a encore la promesse de saut de mouton que nous attendons. Au lieu de laminer les temps, on couvra les routes sans travail, causant encore d'embouteillages. Sur le plan éducationnel, il y a une promesse de la gratuité de l'enseignement primaire qui serait effective dans cette rentrée scolaire. Sauf que la santé reste un handicap avec le virus Ebola qui ronge la partie est du pays, sans ignorer la famine dont sont victimes la plupart des Congolais qui vivotent. L'emploi s'apprécierait peut-être après la mise en place du gouvernement. Mais j'ai personnellement des doutes que ce fameux problème d'emploi sera résolu au Congo, car il serait question de satisfaire d'abord les membres du FCC et de l'IDPS. Chacun voudrait d'abord satisfaire les siens au détriment de la méritocratie.
Alors, je vais ajouter cette réaction de Daniel Mukeba depuis Lubumbashi. Vu la soif et l'attente de la population pour le changement, nous pouvons dire que le bilan du président est mitigé. Il avait mis la barre très haut pour apporter un changement, donner des signaux forts pour ce changement. Malheureusement, pour lui, il devait composer avec ceux qui ont travaillé dans l'ancien système, d'où ses résultats. Professeur.
Oui, disons, Il y a là une interrogation fondamentale que nos amis soulèvent. C'est vrai qu'on attribue le peu de résultats quelquefois au fait que le gouvernement ne soit pas sorti. Mais toute la question qu'il faut se poser, c'est que est-ce que le gouvernement qui sortira réalisera plus que ce qui a été réalisé avant sa sortie? Là est toute la question. Et donc, nous attendons voir ce que le gouvernement Ilunga est bien en mesure de faire. Est-ce que ce gouvernement pourra faire autant que ce qui a été fait avant qu'il ne soit mis en place? Et les inquiétudes exprimées par nos amis vont dans le sens de dire oui, le gouvernement viendra, mais est-ce que eux et nos amis de Cash ne vont pas carrément se partager le gâteau? Alors, finalement, le programme de 100 jours apparaît en fait comme un concept symbolique, étant donné que la réalisation de ce programme ne se limite pas dans les 100 jours, mais on voit bien qu'il va aller au-delà, peut aller jusqu'à la fin de l'année. Ce qui fait que beaucoup d'actions qui sont prévues dans ce qu'on appelle symboliquement 100 jours, eh bien, c'est des actions qui vont s'étendre jusqu'au décembre. Et d'ailleurs, vous avez suivi que pour les sauts de mouton, on vous a dit, eh bien, le premier sera prêt fin septembre. Et que donc l'autre, vous allez attendre. Ça veut dire que le programme de 100 jours va aller jusqu'à la fin de l'année. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que les attentes de la population vis-à-vis de 100 jours sont immenses. Mais il faut regarder le budget de l'État qui est de 5 milliards de dollars. Et donc, on peut bien se demander qu'est-ce que l'on peut bien faire avec un tel budget. Dans ce budget, il y a toutes les revendications à caractère social. Il y a les infrastructures, il y a le fonctionnement des institutions, il y a tout. Et donc, il faut prendre la juste mesure. Et il n'y a aucun miracle qui peut être fait. C'est vrai qu'il y a eu des promesses électorales, mais il faut toujours dire qu'il y a un grand écart entre les promesses électorales qui ont été faites par divers candidats et la réalité de la gestion de l'État. Il y a un véritable fossé entre les deux. Moi, j'ai eu à suivre tous les programmes déclinés par les différents candidats. Je ne vois pas un programme qui s'approche véritablement de la vérité. Les programmes, les promesses électorales sont généralement faites dans l'intention de séduire l'électorat, mais une fois qu'on a obtenu le suffrage, on est en face d'une réalité de pouvoir qui est carrément difficile à gérer, parce qu'il faut tenir les promesses électorales. Là est le plus grand défi du pouvoir actuel.
Merci, professeur. Monsieur Toumba, il y a une question pour vous qui nous vient de l'Équateur. Voilà, Gilbert Lokwa qui dit ceci: les chantiers lancés par le chef de l'État dans le cadre des 100 jours, son bilan est mitigé dans les provinces ciblées, dans la mesure où les suivis sur terrain posent un sérieux problème. Mais la question qu'on se pose maintenant est celle de savoir pourquoi ces chantiers ont visé nécessairement d'autres provinces au détriment des autres, comme prévu dans la province de l'Équateur où je suis. Rien n'est réalisé jusqu'ici dans le cadre de ces chantiers. Vous allez répondre à cet auditeur et puis conclure.
Merci beaucoup, madame. Je sais que notre compatriote est en train de se rappeler du temps passé. Parce qu'il faut dire que le professeur l'a indiqué, nous venons de très loin, madame. Et jusqu'à tel point que si on essaie de faire quelque chose, on sent qu'on n'a pas fait quelque chose. Je peux dire à notre auditeur qu'à l'Équateur, le grand Équateur n'a pas été oublié. Nous avons les écoles qui sont réhabilitées à l'Équateur. Je parle des grands Équateurs. Nous avons, s'il faut dire, c'est
on n'a plus beaucoup de temps. Hein,
voilà. Et c'est qu'il y a les centres de santé, il y a les écoles. Et l'Équateur n'a pas été oublié. Je suis personnellement économiste financier de formation. Je pense que mon collègue doit essayer de tirer attention avec des chiffres, parce qu'il parle de qu'est-ce que je dis, madame.
Il
parle de réserve monétaire. De 900, je ne sais pas d'où il tire ça, parce que je sais que aujourd'hui nous sommes à 1,040 million. Madame, c'est pour la toute première fois que nous atteignons réserve.
Merci.
De 1,040 million. Un million.
Merci, John Toumba. On n'a plus beaucoup de temps. Yves Kitoumba, votre conclusion.
Je voulais conclure pour dire que, en termes de chiffres, vous savez que on peut bien débattre, mais ça se sent au niveau de la population. Vous voyez, lorsque la population, le panier de la ménagère ne sent rien, on peut pas se leurrer des données de chiffres sans pour autant avoir de soubassement. C'est-à-dire que on est en déficit.
Merci.
Le pays est en faillite. Il faut gérer de manière rationnelle pour que le peuple se retrouve.
Merci, dans ce... Yves Kitoumba. Voilà. Professeur, conclusion, quelques secondes.
Oui, je crois qu'il faut positiver les choses. Le programme des 100 jours a été lancé. Il y a un certain nombre de réalisations qui sont faites. Donnons la chance à ceux qui sont là pour réaliser beaucoup de choses davantage. Mais il faut aussi les tirer à l'œil, parce que si vous n'avez pas un contrôle citoyen, eh bien, ceux qui sont là pourront tous se permettre.
Merci, professeur. C'est la fin de cette émission. Bonne suite sur les deux programmes sur la fréquence de la paix.